RCF.
Bonjour, amis auditeurs, auditrices de l'émission Le Berry se raconte avec Agora Défense pour l'histoire militaire du Berry et du département du Cher. Nous retrouvons aujourd'hui Madame Annie Laurent. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Alors vous êtes professeur honoraire de sciences physiques au lycée Pierre-Émile Martin. Vous êtes aussi une passionnée d'histoire et spécialiste de la métallurgie. Dans notre précédente émission, nous avons abordé la métallurgie de Torteron au XIIe jusqu'à l'époque moderne. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission au glorieux XIXe siècle pour l'industrie métallurgique de Torteron. Mais ma première question, pourquoi dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, des boulets de canon et des ancres de marine sont-ils fabriqués à Torteron, chère madame? Alors,
eh bien, en réalité, de nombreux lieux de fabrication sont concernés. Après les guerres de religion, la reprise s'annonce. Pour éviter de coûteuses importations, dès 1692, les arsenaux de Louis XIV passent commande. Le fer d'Espagne et celui de Suède sont vraiment trop coûteux. Colbert avait visité en son temps les établissements du Nivernais et du Berry. Certains établissements répondent aux exigences de qualité que demande l'armée. Les fonderies de Mareuil, de Charenton, de Bigny, de Meillan et bien sûr Torteron, Feuillard et La Guerche fournissent des boulets de fonte. Les forges annexées déforment le fer dans multiples objets résistants à la corrosion marine. Les manufactures de cônes, puis d'infis sur la Loire, assemblent les ancres préparées au bord de l'Aubois, au Fournet, pour les arsenaux de Rochefort ou de Port-Louis près de Lorient. Sous Louis XV, la demande est ralentie, mais cependant, le nouveau haut fourneau de Gros-Souvre est cité en exemple. À partir de 1742, la forge du Fournet profite d'un nouveau marché sous la tutelle de Guérigny. Les installations de Feuillard sont refaites. En 1758, le haut fourneau de Torteron est reconstruit avec soin par Pierre-Noël Léveillé du Fournet. Alors, du lest, des boulets en fonte douce, des plaques sont durablement fournis à la marine. Les expéditions des compagnies des Indes et les conquêtes coloniales vont augmenter aussi le nombre des navires de commerce. Les forges de Ragon, de Bernau sont réanimées pour élaborer les petits fers. La marine de guerre de Louis XVI tient tête aux Anglais pendant la guerre d'indépendance américaine. L'armement maritime des arsenaux de La Rochelle et Indrée se réserve une partie de la fonte venant de Torteron, Feuillard, La Guerche, Vierzon, Troncet. Les forgerons façonnent les clous de marine, les fers de gouvernail, les crocs et les grappins, des pièces d'ancre. Alors on craint de manquer de bois, car la demande est forte.
Alors justement, il faut savoir, amis auditeurs, auditrices, que la marine française, à la fin du règne de Louis XVI, était à la limite l'équivalente, même supérieure, à la marine anglaise. Ne l'oublions pas. Ma seconde question. Nous allons évoquer très brièvement la période 1789-1815 pour affirmer, vous me corrigerez, Madame Laurent, que la croissance de Torteron débute réellement avec Louis-Philippe. Alors, qu'en pensez-vous, Madame Laurent?
Eh bien, dès les années 1770, un certain nombre de forges peu rentables ont cessé leur activité. En 1780, le comte de Fougères refait cependant à neuf le fourneau de La Guerche, sans oublier de loger le personnel. Puis Jean-François Durand, fermier de Gros-Souvre-Trézy, rachète tout le domaine et ses forges. Nouveau maître du Fournet et de Torteron par son mariage, M. Duchamp du Creuset s'adapte aux besoins exprimés et exporte aux Antilles des marmites en fonte, pansues avec une anse pour les suspendre au-dessus d'un foyer.
Alors, la Révolution française éclate. Va-t-elle affecter nos forges, Madame Laurent?
Eh bien, oui. Sollicités en raison de leur éloignement des frontières, de leur réputation de savoir-faire et des ressources locales, les forges du Cher produisent alors d'abord des sabres et des piques, puis des canons d'artillerie nécessaires au tir des boulets de moyen calibre contre les ennemis de la Révolution. Propriété du clergé ou bien d'émigrés, des hauts fourneaux sont saisis, deviennent biens nationaux, mais restent allumés. la fonte produite à Feuillarde et à La Guerche est ainsi réquisitionnée pour les ateliers de moulage et la forerie de la manufacture de canons de marine créée à Nevers. Torteron et Grossouvre complètent les livraisons. Une petite fonderie de canons est même installée non loin du Fournet, dans l'église de Saint-Germain-sur-l'Aubois. Et la commune allait être dénommée la canonnière pendant 18 mois.
Très bien.
Par contre, le gouvernement impérial de Napoléon Ier laisse le Berry de côté dans ses efforts de recentralisation. Oui. Mais le climat pacifié instauré par la restauration monarchique attire à nouveau les investisseurs privés sous Louis XVIII et puis Charles X. Pierre Bouygues, marchand de fer parisien, puis ses fils, opèrent une véritable concentration capitaliste dans les forges du Nivernais et à partir de 1818 en Val-d'Aubois. Ce sont les baux de Grossouvre et Trézy, du fourneau de La Guerche, celui du Chautet, et en 1822, l'achat de Torteron, achat de forêts, de terrains, de gisements miniers, de maisons et tout un programme de construction.
Alors justement, vous allez nous parler de Georges Dufaux.
Alors... Georges Dufaux est le directeur général de ces forges. Il applique les enseignements reçus auprès de son père ou à l'école polytechnique et il introduit ici les techniques observées lors de son voyage au Pays de Galles en 1817. Il a été le premier en France à produire à Trézy près de Grossouvre du fer laminé, vite imité partout. Les premiers spécialistes gallois sont embauchés.
Donc ils viennent du Pays de Galles ?
Oui, pour aider, encadrer le personnel français. En 1821, Dufaux surveille la construction sur la rive droite de la Loire de la forge à l'anglaise de Fourchambault, maison mère de la société Bouygues, où va être livrée à la demande la fonte élaborée à Torteron. Fourchambault, à la faveur d'une visite du duc d'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe en 1830, et il vient aussi à Torteron. Le fer que l'on obtient par affinage répond aux besoins des industries et éventuellement de l'armement.
Alors, justement, et qu'est-ce que, là, il y a une grande nouveauté, pas une grande nouveauté, mais disons, vous allez nous parler du haut fourneau. Alors, qu'est-ce qu'un haut fourneau ? Essayez de nous expliquer ça, nous, un petit peu les néophytes, là, les débutants. Madame...
Eh bien, je vais justement, la période s'y prête bien, je vais prendre l'exemple du haut fourneau numéro 2 de Torteron en 1827. Il n'est plus en période d'essai puisqu'il a été construit l'année précédente. Son massif est savamment maçonné et il atteint 10 mètres de haut. Il est adossé à un mur soutenant une plateforme où l'on apporte les charges. La cuve intérieure a la forme de deux troncs de cône assemblés par leur surface la plus large, le ventre, de 2,90 m de diamètre. Par le gueulard, ouverture supérieure trois fois plus étroite, le chargeur déverse toutes les heures en lit alterné, trois bonnes parts de minerai mêlées à une part de fondant calcaire et une part et demie de charbon de bois, en mixité autorisée maintenant avec 2/5 de coke. À cet effet, une douzaine de fours de calcination de la houille va être suivie d'autres, tous installés à proximité du plateau de chargement. Deux paires de pistons désormais métalliques insufflent l'air. Oui. La soufflerie est entraînée par la machine à vapeur de 25 chevaux, oui, achetée en 1824, la première du département, et au moins deux fois plus puissante que l'ancienne roue hydraulique. Le vent pénètre par trois truyères placées près du ventre. La combustion du charbon de bois produit de la chaleur. Et dans la zone de la cuve où la température avoisine 1100 degrés, le monoxyde de carbone réduit le minerai en fer plus ou moins pâteux qui descend dans la cuve, comme dans un bas fourneau. Oui. Mais, à la rencontre avec les lits de charbon incandescent sur une grande hauteur, oui, le fer se charge de carbone et est transformé en fonte liquide dès 1200 degrés, rassemblé dans un creuset de 200 litres environ à demi enterré à la base.
Et ça produit combien de fonte ?
Eh bien, ce haut fourneau peut produire environ 5 tonnes de fonte par jour en 3 ou 4 coulées. Je vous signale que j'ai eu le plaisir de voir le haut fourneau numéro 2 de ArcelorMittal à Dunkerque s'élevant à plus de 80 mètres et pouvant couler 4000 tonnes de fonte par jour c'est-à-dire 800 fois plus que le fourneau de 1827. Il existe actuellement un haut fourneau numéro 4 qui peut fournir 10 000 tonnes par jour de fonte, toujours à Dunkerque. Jaillie du trou de coulée au moment voulu par le maître fondeur, cette fonte homogène prend forme à l'intérieur de moules en sable bien préparés. Un tableau de François Bonhomé, dit le forgeron, évoque ce travail. Oui. Il a été largement diffusé grâce au magazine Pittoresque, revue de l'époque. Mais cette fonte est cassante au choc et il faut l'affiner à la forge si l'on désire du fer déformable et résistant. C'est le procédé indirect, oui, bien perfectionné depuis le XVe siècle. On passe du minerai au fer, oui, on revient du fer à la fonte pour ensuite élaborer le fer, d'où le nom de procédé indirect. À Fourchambault, pour affiner ce fer, les fours à pudeler décarburent. Oui. Puis, plusieurs passes entre des cylindres de laminoir finissent de l'épurer et façonnent le métal en tôle si les cylindres sont lisses, en rails ou en poutrelles si les cylindres sont cannelés. À Torteron, à l'avènement de Louis-Philippe, une partie continue à être moulée directement dans la première halle de coulée en première fusion, donc à bon marché, oui, pour les boulets, les bombes, les flasques de mortier ou les tacs plates et épaisses, des têtes de marteau, des enclumes. Ouais. Une autre partie est refondue aux cubilots, qui sont installés après 1826 dans une nouvelle fonderie, moulerie de tuyaux et de matériel ferroviaire, sans oublier les fournitures pour l'armée aux formes plus précises. Un tiers de la production, soit 1000 tonnes environ, part à Fourchambault. Les agrandissements succèdent aux nouvelles installations. L'usine est dotée de grues, dont les flashs sont moulés à l'usine.
Alors, autre évolution, au décès de Louis Bouygues, qu'est-ce qui se passe en 1838?
Eh bien, au décès de Louis Bouygues, le canal Saint-Louis raccorde déjà l'usine à une branche du canal de Berry, qui débouche sur le canal latéral à la Loire. Torteron est ainsi relié à Briare, Orléans, ouais, Nantes ou Paris, aussi bien que Decize et Roanne, voire Lyon. L'État a financé au 7/8 ce canal, ce qui prouve l'introduction de la société auprès du pouvoir. Un artilleur est logé au village de Torteron. Dans les années 1840, on verra des contrôleurs chargés de la réception des projectiles, aussi bien pour la marine, on cite les noms de Bluteau et de Le Guedre, que pour l'artillerie de terre avec messieurs Massier et Gilson. Ils sont sous les ordres d'officiers qui surveillent les fabrications, tels Gaston-Emmanuel de Trion, capitaine du 5e régiment d'artillerie, Légion d'honneur en 1849, de Pierre-Édouard Vivier de Lachaise, et en 1837, il est sous-inspecteur adjoint des forges de la Nièvre à Nevers. Enfin, le capitaine Hippolyte Guémard de Roquebeau, qui apparaît le 1er octobre 1837 comme lieutenant, puis capitaine, puis chef d'escadron au 2e régiment, carabinier, Légion d'honneur en 1849. Quand il est en retraite en 1867, il a le titre de lieutenant-colonel d'artillerie et il devient gérant de la société de Fourchambault jusqu'à sa mort brutale.
Alors, Madame Laurent, je vous remercie. Merci, Madame Laurent, pour ces passionnantes explications sur l'industrie de Torteron. Nous nous sommes arrêtés à Louis-Philippe. Donc, nous allons faire une prochaine émission, justement, qui sera consacrée au Second Empire et à l'apogée de l'usine de Torteron. Amis auditeurs, auditrices, bonne journée à vous à l'écoute de RCF et à très bientôt avec Le Berry se raconte et Agora Défense pour l'histoire militaire du Berry et du Cher. Merci.